A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Confidence dans cette rediffusion en sol majeur. Mon œil a été attiré par un nom dans la presse avec ce titre, Aïssata Seck, Marianne Noire. Beau titre, mais méfiance. On le sait bien, depuis quelques années, la diversité est devenue cette belle patate chaude que se refilent les politiques et qui fait vendre du papier. Mais en ajustant mes petites lunettes, j'ai réalisé qu'Aïssata Seck était d'un bois en sol majeur très élégant. C'est elle, l'élu PS, à Bondy, près de Paris, qui s'est battue il y a quelques mois pour ces tirailleurs sénégalais auxquels la France refusait la nationalité. C'est elle qui a gagné, elle, la discrète, qui a cru en la gauche de François Hollande, avant de rallier celle de Benoît Hamon, dont elle était le porte-parole aux dernières élections présidentielles en France. Elle, qui n'a pas connu Samba Hirundom, son grand-père sénégalais, un ancien tirailleur qui aurait pu avoir ces mots.
Nous avons combattu pour la France parce que nous étions des ressortissants français. Nous étions des Français. Moi, je suis né français. Je suis né à Dakar. Et même dans la banlieue de Dakar, dans le même village que Ségolène Royal.
Alors, nous sommes partis en Algérie en 1959 avec le bateau Lyoté. C'était là-bas, je devais faire 2 ans, mais avec les indépendances, j'ai fait 21 mois. On nous a rapatriés par anticipation, les Sénégalais, les Guinéens et les Maliens. Chacun retourne dans son pays pour participer à l'armée, quoi, à l'armée nationale.
Bonjour Aïssata Seck.
Bonjour Yasmine.
Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous entendez ces voix de tirailleurs sénégalais? Ce sont des voix que vous avez enregistrées.
Oui, c'est des voix que j'ai enregistrées et forcément, je suis toujours émue. Pourtant, je les ai écoutées, réécoutées. Je ressens une forte émotion, d'une part parce que j'ai contribué à ce qu'ils puissent être naturalisés, mais au-delà de ça, c'est une histoire qui est une histoire commune, une histoire de France, une histoire qui est censée nous rassembler et qui fait encore défaut aujourd'hui. Donc je ressens toujours cette forte émotion quand je les écoute. C'est vrai que c'est des voix que j'ai enregistrées. On a beaucoup de témoignages de ces messieurs extrêmement émouvants parce qu'ils ils se rappellent de ce qu'ils ont vécu comme si c'était hier. Et c'est vrai qu'on peut les écouter parler, nous raconter, nous conter pendant des heures ce qu'ils ont vécu. Et ce que je retiens à chaque fois à l'issue de ces témoignages, c'est le fait qu'ils restent toujours humbles et fiers de ce qu'ils ont fait, fiers d'avoir combattu pour la France. Et beaucoup le disent, si c'est à refaire, je le referai. Parce qu'à l'époque, quand je me battais, c'était pour libérer mon pays, c'était pour libérer ma patrie. Donc je recommencerai, je le referai.
Alors ce combat pour les tirailleurs, on va le raconter évidemment tout à l'heure. Mais là, on va se livrer à un exercice finalement que les politiques n'aiment pas toujours, celui du portrait. Vous-même, vous n'étiez pas très chaude?
Non, c'est vrai que je n'ai pas cette facilité, cette capacité à parler de moi. Ce n'est pas simple, on se dit qu'on n'a pas forcément énormément de choses à raconter et que de toute façon ça intéresse pas forcément les gens, donc c'est compliqué de parler de soi. J'ai beaucoup plus de facilité à parler des gens que je défends et que je soutiens dans mon quotidien plutôt que de parler d'Aïssata Seck.
Mais qui est derrière cette femme politique? Ça nous intéresse en sol majeur.
Enfant, est-ce que vous rêviez de faire la révolution?
Est-ce que je rêvais de faire la révolution? J'ai été engagée très très tôt, dès mon enfance, parce que ma mère, en fait, a créé une association sur la ville des Mureaux, une association de femmes relais qui venait en aide aux citoyens de la ville et notamment aux femmes immigrées qui ne parlaient pas français. Ma mère a eu cette chance d'avoir été à l'école quand elle était au Sénégal, jusqu'en classe de 5e, donc elle parle et écrit très bien le français. Et elle s'est rendue compte que beaucoup de femmes au Mureaux avaient des difficultés, notamment juste pour lire les bulletins scolaires des enfants, les carnets de correspondance ou remplir un document administratif. Donc elle a eu l'idée avec deux autres copines de créer cette association et elle donnait des cours d'alphabétisation tous les mardis et jeudi après-midi. Donc moi, Quand je finissais très tôt l'école, j'étais tout le temps au local de l'association. Donc j'ai été très très vite sensibilisée à la question de l'entraide dans le milieu associatif de ma maman.
Alors tout ça se passe, vous venez de le dire, entre les Mureaux et Mantes-la-Jolie. Hein,
oui, c'est
vous
ça.
Avez grandi là, vous êtes née en 1980 donc, et vous grandissez à l'ouest de Paris. Finalement, ces quartiers dont on parle toujours avec des images de voitures qui brûlent, c'est parce que vous nous décrivez. C'est un quartier de la solidarité ?
Ah oui, effectivement. Alors on a des quartiers en difficulté, on ne peut pas le nier. Mais moi, ce que je retiens, c'est que j'ai eu une enfance heureuse et que j'ai eu une enfance où on a appris l'entraide. Si un voisin avait une difficulté, tout le monde se mobilisait pour aider ce voisin. On avait un mélange de cultures, un mélange de religions aussi. On avait la religion chrétienne, la religion musulmane et on a toujours réussi à vivre ensemble. C'est-à-dire que quand on avait les fêtes du type Noël ou Pâques, nous, en tant que musulmans, on allait fêter ces fêtes chez nos voisins chrétiens et vice versa. Donc c'est vrai qu'on a vécu dans, je dirais pas la misère parce que la misère, elle est dans des pays africains où les gens meurent de faim. Pour moi, c'est ça la misère. Mais on a vécu dans des difficultés, mais on a réussi et on réussit encore aujourd'hui à s'en sortir parce qu'on a cette forme d'entraide qu'on ne trouve pas dans d'autres villes ou dans d'autres endroits.
Alors, je ne sais pas si vous souhaitiez vraiment faire la révolution quand vous étiez gamine, Aïssata Seck, mais en tout cas, dès les années 90, vous avez très jeune une oreille qui traîne du côté de l'actualité internationale.
La chaîne de la solidarité n'a pas eu de mal à se mettre en place ce matin avec l'opération Riz pour la Somalie.
Nous n'imaginions pas qu'ils vivaient dans une telle misère.
La population entière meurt de faim.
C'est bien d'avoir apporté le riz.
Quelques 4000 tonnes de riz.
La famine, bien sûr, mais aussi la gale ou la tuberculose.
Enfin
toutes ces maladies liées au manque d'eau et d'hygiène.
Sur les plages de la famine.
Aux enfants, les plus faibles surtout. Médecins sans frontières donne une bouillie énergétique, appelée Unimix.
Bah, je trouve que c'est vraiment bien, parce que bon, pour les autres pays, ça leur apporte quelque chose qu'on peut leur amener de nous-mêmes. Je crois que vaut mieux le riz, ça apporte plus que de l'argent ou autre chose.
On sentit tout le symbolisme de ce geste.
Bernard Kouchner,
des enfants français, c'est-à-dire, ils savent que tout le circuit est passé par l'éducation nationale, par la poste, par tous ceux qui nous ont aidés, et que chaque fois, c'était un enfant parmi les 13 millions de Français.
Alors la petite Aïssata Seck de 12 ans s'est sentie concernée donc en 92 hein, par cette actualité somalienne.
Alors déjà à la maison, ce qu'il faut savoir, c'est que nous on regardait quotidiennement les informations. Donc on a évoqué ces sujets à l'école. Et l'objectif était d'apporter un kilo de riz. Chaque élève devait apporter un kilo de riz à l'école. On en a parlé avec les parents. À l'époque, on était une fratrie de 7 enfants.
Avec un papa ouvrier chez Renault.
Avec un papa ouvrier chez Renault. Donc, il fallait apporter un kilo de riz. Quand on est une famille nombreuse comme la nôtre, mon père achetait des sacs de 25 kilos de riz. Parce que dans la culture sénégalaise, on mange beaucoup de riz. Donc, je me rappelle que la veille, avec ma maman, on avait pris des sacs congélation. Et on avait mesuré un kilo de riz sur la balance pour que mes 6 frères et sœurs et moi puissions apporter cette contribution à l'école. Donc c'est vrai que c'est une image qui m'a marquée et ça m'a énormément sensibilisée sur le fait qu'il fallait aider les plus pauvres.
Donc on avait un peu la bosse de l'engagement chez les Seck, dans la famille Seck, avec cette maman donc, qui est déjà dans l'associatif avec ses cours d'alphabétisation, mais il y a aussi tout proche de vous un papa.
Oui.
Et son parcours ?
Oui, mon papa a un parcours extrêmement intéressant, dans le sens où il est arrivé en France en 1963. À l'époque, il avait encore son passeport français 3 ans après l'indépendance du Sénégal. Il a beaucoup galéré avant de pouvoir s'installer de manière progressive, c'est-à-dire qu'il est arrivé à Marseille par bateau. Hein. De toute façon, il n'avait pas les moyens d'acheter un billet d'avion. Il a dormi dehors, dans le métro. Il n'avait pas d'argent pour se nourrir. Mais il savait qu'il avait un frère qui était venu 5 ans avant lui sur le territoire français. Sauf qu'à l'époque, il n'avait pas les téléphones. Il s'est retrouvé dans le métro un jour. Il avait passé la nuit dans le métro et tout à fait par hasard, son frère se trouvait dans ce métro-là. Donc, il
c'est
fait
du
signe.
Mektoub,
voilà, c'est vraiment le mektoub. Ouais. Vraiment, c'est le mektoub. Et il fait signe à un de ses amis. Il lui dit, je crois que c'est mon petit frère. Et il lui dit, va lui demander comment il s'appelle. Donc ce copain, parce que lui en fait il n'osait pas, il savait que son frère avait pris le bateau mais il ne savait pas s'il avait survécu, etc. Donc il va le voir et il se trouve que c'était son frère qui lui commençait à avoir une situation plutôt correcte. Donc bah, il a suivi son frère,
Ensuite, il a trouvé un boulot, il a commencé comme boulanger. Entre-temps, il a fait venir ma mère et il s'est installé au Murau quand il a trouvé son emploi d'ouvrier chez Renault Flin.
Quel est le papier le plus précieux dont vous êtes en possession?
Aïssa Tasek.
Alors, pour moi qui suis née en France, je vais dire ma carte d'identité française. Hein. Bah, je suis française, je me considère comme telle, même si très souvent on nous rappelle, on nous renvoie en tout cas à nos origines, hein, et j'en suis très très fière, hein, je l'assume, mais ma carte d'identité française...
Vous en êtes fière alors que ça devrait vous déranger? Pourquoi est-ce qu'on vous renvoie toujours à ces
non,
origines?
Non, ce que je veux dire, c'est que je suis fière de mes origines. J'ai été élevée avec la double culture, la culture peule et la culture française. Donc pour moi, c'est une richesse. Mais j'ai cette fierté aujourd'hui, et je le rabâche et je le rappelle quotidiennement à mes filles, c'est de leur dire, vous êtes française et ne laissez personne vous dire le contraire.
Alors si on regarde votre CV, Aïssata, j'ai vu que vous aviez donc un BTS en assistante de direction, puis une licence en communication et puis un master en communication politique. Et vous commencez à faire vos premiers pas dans ce monde de brut en 2011. Quand est-ce que vous rencontrez les premiers ténors de la politique et quelles sont vos premières impressions par rapport à ces ténors?
Alors les premiers ténors, moi je les rencontre assez vite. J'étais d'abord engagée dans le milieu associatif, hein, et mon engagement politique a été la suite logique de mon engagement associatif. Je m'engage en 2011 en tant que militante au Parti Socialiste, hein, donc on fait ce que tout le monde fait, on tracte, on fait du porte-à-porte, etc. Le premier ténor que je rencontre c'est Claude Barthelone, d'une part parce qu'il est député de la circonscription de Bondy, donc on le voit assez souvent sur Bondy, et d'autre part parce que je suis son parcours politique qui me paraît assez intéressant dans le sens où j'ai le sentiment qu'il est proche des gens. On me repère moi assez vite, hein. J'ai le profil qui leur convient,
c'est-à-dire
entre guillemets, jeune, femme, noire. Donc
l'alibi de la diversité.
Oui, l'alibi de la diversité, très clairement, très clairement.
Et justement, je me demande comment du coup cet idéal de gauche tient debout dans votre tête, Aïssa Tasek, parce que cette gauche qui, tout en se voulant protectrice des minorités, vous m'arrêtez si je me trompe, bah, elle assure pas une cacahuète quand même sur la question non seulement de la représentation de la diversité, mais aussi sur le vote des étrangers. Est-ce que vos parents votent, par exemple?
Mes parents ne votent pas. Moi, ce que j'avais suggéré et sur lequel j'ai milité, notamment auprès de mes parents, c'était qu'ils fassent leur démarche pour obtenir la nationalité française. Mais mes parents n'ont jamais voulu le faire, dans le sens où les démarches administratives sont beaucoup trop compliquées. Par exemple, mon père, il a des documents qu'il ne peut absolument pas avoir, comme il est né dans un village au fin fond du Sénégal, où à l'époque de sa naissance, il n'y avait pas de registre, pas de documents administratifs. Donc j'ai milité pour le droit de vote des étrangers. Je vous cache pas que quand j'ai fait la campagne de François Hollande, c'était un des arguments que je donnais, notamment aux personnes issues de l'immigration, quand j'allais sur les marchés. J'y croyais vraiment et j'étais extrêmement déçue, dans le sens où j'aurais préféré qu'on tente et qu'on se casse la figure plutôt que de dire on ne le fait pas parce qu'on n'aura pas la majorité au Sénat. Donc très clairement, à mon niveau, en tout cas moi en tant que fille issue de l'immigration, j'ai été extrêmement déçue par toutes ces choses-là. Et je pense qu'il n'est pas trop tard. Je pense que c'est à nous aujourd'hui de prendre les choses en main. Mais ne pas tenter, ne pas se battre, c'est se résigner et c'est dire à nos enfants on n'a pas tenté, tout simplement parce que c'était perdu d'avance.
Aujourd'hui, vous faites partie de la direction nationale de Génération.s, le mouvement, le nouveau parti de Benoît Hamon. Et là aussi, ça n'a pas été simple, je crois, pour vous. Est-ce qu'en tant qu'élu, vous avez expérimenté, Aïssa Tasek, une sorte de réticence par rapport à votre couleur de peau?
Alors, dans le mouvement, très clairement aujourd'hui, non. Pendant la campagne des présidentielles, oui.
C'est-à-dire
j'ai une anecdote à vous raconter. On allait Place de la République, c'était le dernier meeting de Benoît Hamon. Donc moi, en tant que porte-parole, j'ai droit à tous les accès. Donc on me remet deux bracelets qui stipulent que je peux aller n'importe où, à n'importe quel moment. L'heure est arrivée, je dois monter sur scène avec Benoît Hamon et tous les autres ténors du parti. Donc j'arrive avec Mélissa Youssouf, qui elle aussi avait les accès. Et on est bloqué en bas. par un membre du service d'ordre, mais qui est adhérent au Parti Socialiste, donc est censé défendre un certain nombre de valeurs. Et il nous dit « Vous ne pouvez pas passer ». Donc on lui répond bah « On est désolé, on nous a dit d'être là à 18h, il est 18h, on doit monter, le candidat arrive, il faut qu'on soit sur scène. » quoi. Donc je lui montre mes bracelets en disant « Écoutez, j'ai les accès, il faut que j'y sois. » Et il dit « Non, pour l'instant, vous patientez. » Il nous met sur le côté. Une élue, députée blanche, arrive. Il ne contrôle absolument pas ses accès. Il la laisse passer. Donc là, je commence un peu à m'énerver en lui disant « Je ne comprends pas pourquoi elle a le droit d'accès. Moi, je ne l'ai pas. » Il me dit « Elle est élue. » Donc lui, déjà, dans son inconscient, en tant que noire, je ne pouvais pas être élue. Donc je lui dis « Mais c'est scandaleux. Je suis élue. Ma collègue aussi est élue. » Et là, il nous dit « Non, mais vous n'êtes pas des élus comme les autres. » Et là, ça a été vraiment, en fait, je me suis pris une claque. Donc là, je ne sais plus trop ce que je lui ai dit, mais je pense que j'ai été assez violente dans mes propos. On est monté sur scène, mais ça a été extrêmement violent. J'en ai pleuré, en fait, parce que je me dis qu'en 2017, des gens qui sont censés défendre un certain nombre de valeurs nous renvoient constamment à la figure le fait que vous n'êtes pas des élus comme les autres. Sous-entendu, vous êtes noir, donc pas élu comme les autres, etc. Voilà, ce sont toutes ces choses qui font qu'on a encore un gros travail à faire et que je suis là et que nous sommes là pour nous battre, hein, très clairement.
No comment. Alors, les tirailleurs sénégalais, bien, ils vont patienter et puis nous retrouver après le journal, mais on a d'abord rendez-vous avec la 8e merveille du monde. C'était le surnom de Stevie Wonder quand il était petit. On a un petit Master Blaster sur le grill. Ça, c'est pour la communauté des vrais goûteurs de funk. Ça vous va?
Ouais, très bien. C'est parfait.
C'est pour se détendre.
Oui, oui. Everyone's feeling pretty. It's hot, so.
de Master Blaster sur RFI dans votre radio préférée. Merci RFI, merci Stevie Wonder et Aïssata Seck, femme politique française, mais encore une femme de gauche qui a décroché il y a quelques mois à l'Élysée la naturalisation de 28 anciens tirailleurs sénégalais. 37 ans, une proche de Benoît Hamon, Aïssata Seck, qui aime bien mettre les points sur les i de la mémoire. Petite fille de tirailleur oblige. Et je l'avoue, en sol majeur frétille devant cette fille de la République qui sait donner des leçons d'histoire sans en faire des leçons de morale. Mais d'abord, une petite leçon de cuisine.
P comme pot-au-feu ou poulet yassa.
Poulet yassa, évidemment. Que je prépare très bien en plus.
Ah.
Oui, non, ben, poulet yassa, ça fait partie des plats qu'on a appris à cuisiner très tôt à la maison. Donc forcément, je vais avoir une préférence pour le poulet yassa plutôt que le pot-au-feu, même si j'aime bien le pot-au-feu. Mais voilà, poulet yassa, c'est pas mon plat préféré sénégalais. Hein, mon plat préféré, c'est le tchiboudienne, mais je sais préparer le poulet yassa et j'aime beaucoup.
Après le couscous, ça sera peut-être le plat préféré des Français.
Peut-être. Qui sait.
Qu'est-ce que ça veut dire chez les Seck d'être élevé dans la double culture?
C'est toutes ces choses-là, donc d'apprendre à cuisiner très tôt, de savoir recevoir. Au Mureaux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait beaucoup de Peuls, de familles Peuls.
Au Mureaux, en banlieue
parisienne, issues de villages divers et variés. Donc, quasiment tous les week-ends, on avait beaucoup de monde à la maison et on préparait souvent en grande quantité. Et voilà, c'est toutes ces choses. La culture Peul, c'est quoi? C'est l'entraide, la solidarité. Et c'est aussi porter l'habit traditionnel. Hein. En semaine, on avait nos habits classiques pour aller à l'école. Et le week-end, quand on sortait on était en tenue traditionnelle parce que pour mes parents c'était important de nous inculquer aussi cette culture.
Qui vous a appris ce qu'était l'homme?
Ma maman. Ma maman qui m'a toujours dit qu'il fallait en tout cas savoir faire preuve de patience avec l'homme.
Voilà. Mais il y en a un autre qui vous a appris quelque chose sur cette question, qui vous a mis aussi sur la route de vos origines, c'est ce grand ethnologue né vers 1900 en pays Dogon au Mali, grand défenseur de la tradition orale et peule, c'est Monsieur Amadou Ampateba.
Ces leçons morales sont données sous forme de contes, sous forme des anecdotes, sous forme de maximes. Et voyez-vous, quand j'ai entendu des prêtres prêcher ou lire quelques passages de l'Évangile, ou bien quand j'ai vu quelques passages de paraboles de la Bible, j'ai vu que l'Africain est encore plus parabolique. Il parle beaucoup plus en parabole que ce qui est vu dans l'ancienne tradition. Et c'est ainsi que, par exemple, le vieux veut donner un enseignement. D'abord, on prend l'homme. On dit d'abord, que c'est que l'homme? On dit, c'est l'être qui est tout et rien. Il est tout parce qu'il a une parcelle de la puissance créatrice et il n'est rien parce qu'une fièvre l'empêche de faire se lever.
Une archivina qui date de 1969 pour en sol majeur sur RFI. Alors, il faut vous imaginer dans cette banlieue des Mureaux ou de Mantes-la-Jolie près de Paris. Aïssata Seck, en train de découvrir Amadou Ampateba. À quel âge exactement?
J'ai découvert Amadou Ampateba, je devais avoir 13 ans ou 14 ans. Parce que c'est vrai que nous, on a été élevés à la double culture, mais on n'avait pas beaucoup d'informations sur qu'est-ce qu'être Peul, en fait. Donc j'ai commencé à aller à la médiathèque des Mureaux à l'époque, et un certain Pascal m'a conseillé de lire Amkoulé, l'enfant Peul. Et c'est vrai que ce livre m'a marqué dans le sens où déjà il raconte son enfance, son adolescence, à travers des anecdotes, empreints d'humour, mais il évoque aussi des sujets sérieux comme la colonisation, comme les tirailleurs sénégalais et justement la différence de traitement entre les tirailleurs sénégalais et le soldat blanc. Et il le fait d'une manière simple qui fait qu'un enfant de 13 ou 14 ans comme moi de la richesse de la culture africaine et de la richesse de cette littérature aussi qu'on ne nous enseigne pas à l'école.
Donc ça vous parle d'autant plus que votre père lui-même, qui est né en 1940, oui, a vécu dans sa chair la colonisation, par
oui,
exemple.
Oui, oui. Et lui, en tant que Peul guerrier, parce qu'il faisait partie de la caste des Tshedo, ça a été extrêmement mal vécu. À leur époque, ils se réunissaient souvent le soir, de manière clandestine, pour savoir de quelle manière ils allaient chasser l'homme blanc du village et du pays. Hein. Ça a été extrêmement mal vécu. Ils se sont réunis, mon père, très très tôt, dès l'âge de 15 ans. Hein, il a commencé à militer et à voir dans quelle mesure ils allaient mettre fin à la colonisation. Et il en garde un souvenir assez violent, hein, parce que ils ont dû, pendant des années, intégrer la culture française qui n'était pour eux pas leur culture.
Alors il y a la colonisation dans votre arbre généalogique que vous connaissez presque par cœur, Aissata Seck, mais il y a aussi la question des tirailleurs sénégalais incarnés par ce cher grand-père que vous n'avez pas connu, mais qui circule dans toute votre démarche, ce grand-père, Samba Yeron Ndom. Tiens, on va lui dédier cette émission. Qu'est-ce que vous savez de lui ?
Bah, c'était mon grand-père, ce héros, hein, forcément. Donc lui, il a fait la guerre d'Indochine en 1946, je crois. Il est d'abord allé au front, mais un des commandants s'est rendu compte qu'il savait lire et écrire et qu'il pouvait être utile aux médecins qui soignaient les blessés. Donc très vite, il a été enlevé du front et il a assisté à un médecin français. C'est un autodidacte, il a appris très très vite. Il a assisté à un médecin français, donc il soignait les blessés avec ce fameux médecin. Et une fois retourné au Sénégal, il s'est pris de passion sur toutes les questions médicales et il a fait les études nécessaires pour devenir sapeur-pompier à Saint-Louis. Et ce que tout le monde raconte de mon grand-père, c'est qu'il a toujours eu les bras ouverts pour tout le monde. C'est-à-dire que sa maison était ouverte, il y avait à manger pour tout le monde. Il a élevé des enfants qui n'étaient pas les siens. Il a créé une classe dans sa maison pour que les enfants puissent étudier. Et voilà, c'est en tout cas ce que je sais de mon grand-père, c'est que c'était quelqu'un qui était tout le temps dans l'entraide.
En Algérie, j'ai vécu 2 ans. J'ai vécu 2 ans, j'ai fait la guerre. Bon, j'étais au 13e régiment des tirailleurs sénégalais, 13e RTS. Basé à la caserne d'Orléans, Alger. Donc j'ai été affecté dans différentes unités là-bas en Algérie. J'ai combattu pendant 2 ans donc. J'étais au théâtre d'opération avec ce que ça comporte comme difficultés, plan opérationnel. Au plan des relations humaines, je n'ai pas eu tellement de problèmes parce que j'étais dans une compagnie où nous étions majoritairement des Africains. Au niveau du commandement non plus, je n'ai pas eu beaucoup de problèmes, sauf que nous avons rencontré un lieutenant qui n'appréciait pas peut-être beaucoup les Africains.
Pourquoi je dis, même en Algérie, il y a mon cousin qui est mort en Algérie, Raoul Giba, mais il s'appelle Abdoulaye Giba. Il est dans le quai, j'ai la liste là-bas. Il est mort pour la France. C'est marqué mort pour la France. 3 ans dans les montagnes, je n'ai jamais passé la nuit dans une chambre. Lorsqu'on était en Algérie, 8e RPMA. Dans les montagnes, pendant 3 ans dans les montagnes, on n'a jamais resté dans les chambres. C'est ça qui m'a fait mal, ici, ils m'ont dit, je ne remplis pas de conditions, ça m'a fait très mal.
La majorité des gens que nous rencontrons ici, soit dans les bureaux ou n'importe où, ils ne savent pas ce que nous avons fait pour la France. Ils nous regardent comme des parias.
T'es comme tirailleurs sénégalais.
Alors Aissata Seck, racontez-nous, vous êtes à ce moment-là de ce combat adjointe au maire de Bondy, en charge des anciens combattants. Comment ces anciens tirailleurs sénégalais, merci de les avoir enregistrés, merci encore, comment est-ce qu'ils sont devenus une cause à défendre pour vous ?
Alors en fait, quand j'ai lancé l'action, effectivement, j'étais maire adjointe, je suis toujours maire adjointe en charge des anciens combattants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je les suis depuis un certain nombre d'années, bien avant même d'être élue. On a une trentaine de tirailleurs sénégalais qui vivent dans un foyer à Bondy et que j'ai pu rencontrer lors de nos événements associatifs ou sur les marchés.
Ou lors de cérémonies commémoratives de la ville ?
Oui, alors pas au début, non.
Pourquoi ?
Parce qu'ils n'étaient pas invités. J'ai été engagée associative politique, donc j'assistais à ces cérémonies et je me rendais compte qu'il n'y avait pas de tirailleurs sénégalais, alors que je savais qu'une trentaine vivaient sur Bondy. Donc je suis allée les voir pour leur demander pourquoi ils n'assistaient pas à ces cérémonies. Et ils m'ont tout simplement répondu parce que nous n'avons jamais été invités. Il n'y a pas eu une volonté de la part de la mairie de ne pas les inviter, mais on n'a pas pensé à eux, en fait, tout simplement. Donc je leur ai dit, à partir d'aujourd'hui, vous allez faire ces cérémonies commémoratives, on va y aller ensemble. Donc à chaque cérémonie, je me levais le matin, on allait les chercher. Ils venaient assister aux cérémonies, procéder à un dépôt de gerbes parce que j'ai institué aussi le fait qu'on fasse un dépôt de gerbes au nom des tirailleurs sénégalais.
Le 11 novembre ?
Le 11 novembre, le 8 mai, le 19 mars, toutes les cérémonies commémoratives. Ensuite, je les aidais beaucoup dans leur démarche administrative, notamment pour la naturalisation française. Donc on remplissait les dossiers, etc. À chaque fois, on recevait des lettres qui stipulaient qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour devenir français. Et je me suis posé un jour, je me suis dit, c'est juste pas possible. On ne peut pas continuer à recevoir ces lettres. Donc j'ai réfléchi un petit peu à ce que je pouvais faire. Je les ai tous convoqués et je leur ai dit, voilà, si vous en êtes d'accord, je vais écrire un texte, je vais sensibiliser l'opinion publique et on verra ce que ça donnera. Donc j'ai écrit mon texte, je leur ai soumis, l'action a commencé. Donc ça a été compliqué parce qu'il fallait trouver des personnalités publiques.
Donc il y a une pétition de 500 000 signatures et puis un tweet décisif aussi.
Oui. Celui d'Omar Sy. Le tweet d'Omar Sy a été décisif dans le sens où c'est une personnalité connue et reconnue, une des personnalités préférées des Français. Donc son tweet a recueilli très très vite 6000 signataires et ensuite c'est devenu viral sur les réseaux sociaux. Ça va très très vite.
Mais avec quel argument finalement vous avez emporté cette victoire ? Parce qu'il faut rappeler quand même que l'ironie de l'histoire avec un grand H, c'est qu'en fait ces anciens tirailleurs sénégalais ont perdu une nationalité qu'ils avaient.
Exactement. L'argument, ça a été de dire, écoutez, ils vivent en France, ils participent à l'économie française, ils connaissent l'histoire mieux que personne. Ils veulent vivre en France, c'est leur choix aussi, pouvoir faire aussi des allers-retours dans leur pays d'origine, et ils ont versé leur sang. Ils ont juste versé leur sang, ils ont perdu pour beaucoup leurs frères. Comment aujourd'hui la France peut donner comme argument, vous ne remplissez pas les conditions pour devenir français ?
Arrive donc la cérémonie de naturalisation le 15 avril 2017. Donc c'est tapis rouge sous les ordres de la République pour 28 anciens tirailleurs. Ils sont tous tirés à quatre épingles, médaillés pour certains et très à l'écoute évidemment du discours de l'ancien président François Hollande.
Ceux qui se sont battus pour la France et qui font le choix d'y vivre doivent pouvoir devenir français.
Monsieur Daouda Faye Badji. Né en 1938.
C'est la fierté. Là, ça nous dit que ça prouve que nous, on a servi le drapeau français. Dignement. D'autres sont morts. Mais nous, on est là.
Sur le champ de bataille, nous avons. Nos sens sont mêlés. Français, Africains, Noirs, nos sens sont mêlés. Donc, ce n'est que justice.
Ceux qui se sont battus pour la France et qui font le choix d'y vivre doivent pouvoir devenir français.
C'est bien vous qui avez fait tout ça, Aïssa Tassé, qu'est-ce que vous réalisez ? Est-ce que vous vous sentez être finalement une Marianne Noire depuis ce combat ?
Une Marianne Noire peut-être pas, mais en fait j'ai pas vraiment réalisé le combat, si je l'ai réalisé, mais la finalité absolument pas. Une chose est sûre, c'est que quand j'ai vu les tirailleurs sénégalais monter les marches de l'Élysée, j'ai été extrêmement émue.
Désolée. Mais vous avez le droit.
J'ai été émue parce que pour eux, c'était la fin d'un long combat. Pour beaucoup, ils m'ont dit « on peut enfin mourir en paix ». Donc ça a été pour moi une grande fierté. Il y a beaucoup de gens qui m'ont soutenue, des anonymes, qui étaient prêts à manifester pour toutes ces choses-là. Donc, on est surtout émue quand on voit ses parents, à l'Élysée aussi, qui étaient là, ma mère, surtout mon papa n'a pas pu venir, mais... Voir ses parents, ses frères et sœurs vous regarder avec fierté, ça a été pour moi une des plus grandes fiertés.
Ouais. Votre mère, fille d'un ancien tirailleur sénégalais. Oui. Alors, passer la joie des petits fours et de la coupe de champagne, le combat continue parce que là, il y en a 28 qui ont été naturalisés, mais il y en a d'autres qui attendent sur ce tapis rouge et on a changé de gouvernement.
Exactement.
François Hollande est parti. Emmanuel Macron dit quoi ?
Bah écoutez, je ne l'ai pas encore rencontré à ce sujet. Je l'ai interpellé, j'ai interpellé son cabinet. Pour l'instant, je n'ai pas eu de retour. Après les 28, on a une quinzaine de tirailleurs qui ont été naturalisés. Ce que je souhaiterais aujourd'hui, c'est que le président Macron nous donne des garanties et puisse naturaliser ces 30 derniers tirailleurs avant qu'il ne soit trop tard. Hein.
Oui, la moyenne d'âge, c'est 80.
C'est 80 à 95 ans. Donc, il faut qu'on arrête tout ça et qu'on décide très clairement de tous les naturaliser.
Alors, on le sent bien, vous n'êtes pas une donneuse de leçons de morale, mais vous êtes quand même une donneuse de leçons d'histoire. Vous militez évidemment maintenant pour que cette histoire des tirailleurs sénégalais entre dans nos manuels d'histoire. Ça va être un autre combat, mais juste un petit point, une curiosité, une question. Est-ce que pour vous, à vos yeux, un ancien tirailleur qui a défendu la patrie française, est-ce que ça peut être considéré pour certains comme un traître ?
Oui, j'ai fait pas mal de débats justement sur cette question-là. Beaucoup considèrent qu'ils ont été des traîtres parce qu'ils ont combattu aux côtés de la France. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'une part, ils n'avaient pas le choix dans le sens où eux-mêmes étaient français. Hein. Moi, quand je pose la question aux tirailleurs, justement, ils me disent « Mais nous, on était considérés comme étant des Français. On se sentait français dans l'âme. » C'est-à-dire que très tôt, on nous a initiés, on nous a lobotomisés à toutes ces choses-là. Donc pour nous, on était français et on le faisait sans état d'âme, en fait. Hein. On ne se considérait pas comme étant des traîtres. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils étaient prêts, en tout cas, à mourir pour leur patrie. Donc ça reste, quoi qu'il en soit, des héros de guerre.
Alors cette victoire vous a valu d'être aussi honoré par le Sénégal.
Exactement.
Émotionnellement, ça, c'est pas rien. Et symboliquement, c'est pas rien.
Non, c'est pas rien parce que même si je suis française, comme je le dis et je le redis, je suis attachée à ma double culture, je suis attachée à mon pays d'origine. Donc, quand j'ai reçu ce décret de décoration, ben, j'ai été forcément émue. Mes parents l'ont été aussi parce que pour eux, ils ont réussi. Ils ont réussi dans le sens où ils ont réussi à faire partager, à ne pas faire oublier d'où l'on vient.
Aïssa Tasek, en sol majeur sur RFI, femme politique française très regardée par le Sénégal et qui pour en sol majeur sur RFI fait son programme. Qu'est-ce que c'est que ce Baba Mal que vous nous avez programmé ?
Alors j'ai choisi une chanson de Baba Mal, donc un chanteur peul, hein, qui s'appelle Tcharoï. Car c'est une chanson en fait qui rappelle le massacre de Tcharoï qui a eu lieu le 1er décembre 1944 où une centaine de soldats étaient rentrés à Dakar et devaient récupérer leurs soldes. Et malheureusement, pour avoir réclamé ce solde. Beaucoup ont été tués ce jour-là. On a un bilan officiel qui est d'une trentaine de morts par l'État français, alors qu'on parle de plus d'une centaine de morts. Même si le président Hollande a remis les archives de ce massacre, hein, parce que c'est le massacre de Tcharoï, aujourd'hui on ne sait pas ce qu'il existe encore comme archives, ce qui a disparu comme par enchantement, etc. Donc il faut en parler et il faut l'enseigner aussi à l'école.
Lorsque vous lisez les journaux, quelle est la première rubrique que vous consultez?
L'actu, rubrique actualité. Ça va être beaucoup société et ensuite les sujets internationaux.
Alors dans votre revue de presse, si j'ose dire, votre tartine du matin a été sans doute un peu refroidie par un titre, durcissement de l'accueil des migrants par le président Macron.
Ah oui. Alors, ce que j'ai du mal à comprendre avec Emmanuel Macron, c'est qu'il puisse aller rendre visite à ces migrants et ensuite produire une note qui va durcir l'accueil des migrants. On est quand même dans le pays des droits de l'homme. Ces gens ont fui pour beaucoup la guerre. Donc, je ne comprends pas qu'on puisse aujourd'hui en France se dire qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
Alors là, c'est pas toute la misère du monde hein, qu'on avance comme argument. Le gouvernement français plaide en disant que, en fait, cette idée d'instaurer la politique du tri, c'est d'empêcher, je cite, que des personnes ne se mettent en danger en prenant la mer à partir de la Libye notamment.
Quand on parle de la politique du tri, ce que j'ai envie de leur dire, c'est est-ce que vous avez appliqué cette politique de tri quand on a mis les soldats africains en avant pour protéger les soldats français? Faut qu'on arrête tout ça.
Autre sujet dans votre revue de presse, l'antiracisme version Rokhaya Diallo en 2011.
Globalement, à part quelques gens qui sont complètement allumés, on sait que les races n'existent pas parce qu'on a tous fait de la biologie au collège et bon, il y a une race, c'est la race humaine, etc. Maintenant, la reformulation du discours raciste, elle s'est opérée pour désigner les cultures. Parce qu'on n'a pas la possibilité d'invoquer les races pour distinguer les gens au sein de l'humanité et créer une hiérarchie. Donc ce qu'on entend aujourd'hui, c'est qu'il y a des cultures différentes et qu'il y a une hiérarchie au sein des cultures. Et sous couvert de critiquer les cultures, finalement, on ne fait rien de moins que ce qui était autrefois critiqué, les races soi-disant inférieures. Et moi, j'entends beaucoup de gens dire... On ne peut pas considérer que toutes les cultures se valent, et certaines sont porteuses de valeurs universelles comme les droits de l'homme, et d'autres non. Et je crois aujourd'hui qu'il y a un vrai créneau pour les personnes comme moi, qui sont de culture musulmane, qui sont d'origine étrangère, pour dénoncer leur culture d'origine et passer pour l'espèce de personnes qui ont réussi à s'en extirper, qui sont maintenant civilisées, qui sont capables de remettre en cause les fondements de leur culture d'origine. Et moi, j'ai pas du tout envie de jouer à ce jeu-là.
Rokhaya Diallo, une voix que vous suivez alors, Aïssata Seck?
Oui, que je suis énormément parce que c'est une personne que je respecte beaucoup dans le sens où elle défend un certain nombre d'idées, un certain nombre de valeurs. Elle fait peur hein, forcément parce qu'elle met les pieds dans le plat.
Bah là, elle a dénoncé récemment, après avoir été débarquée du Conseil national numérique, elle a dénoncé un racisme d'État. Elle parle de discrimination institutionnelle contre les minorités. Ça veut, vous signez ça, vous
oui,
aussi?
Oui, ben ça existe aussi en politique. Et
Mais est-ce que justement, vous pensez que vous, en tant que femme politique française et noire, vous pensez qu'il faut sortir de la question identitaire?
Ah oui, moi je pense qu'il faut sortir de la question identitaire dans le sens où chaque personne... quelles que soient ses origines et sa couleur de peau, a une identité. Ça, on le sait. Maintenant, aujourd'hui, quand une personne est engagée en politique ou souhaite intégrer telle ou telle institution, elle doit être engagée parce qu'elle a les compétences. Aujourd'hui, ça n'est...
C'est dans l'idéal.
C'est dans l'idéal.
Vous-même,
aujourd'hui,
est-ce que vous êtes prise au sérieux?
Ah ben moi,
par les politiques.
Je pense que beaucoup pensent que ce sont eux qui m'ont faite. C'est comme ça hein, que ça fonctionne en politique. Hein.
Vous avez des noms?
je ne donnerai pas de nom aujourd'hui, mais je l'ai vécu quand j'ai décidé de me lancer dans la course des sénatoriales, où parce que j'en avais marre d'être l'éternel quota de liste, j'ai décidé de monter ma propre liste. Et ça a été extrêmement mal perçu par les gens de mon propre clan. Je parle du Parti Socialiste. Ça a été compliqué pour eux, je ne devais pas aller chercher à intégrer cette institution. C'était à eux de décider pour moi si je pouvais ou pas un jour, peut-être, intégrer cette institution. Mmh. Et ça, c'est fini.
En sol majeur.
france@rfi.fr.
Merci à Issa Tassek de cette belle visite en sol majeur et puis bon vent en politique.
Merci Yasmine, merci pour votre invitation.
Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se quitte plutôt du côté banlieusard avec Kerry James ou plutôt du côté The Show Must Go On de The Queen ?
Banlieusard.
Des combattants, banlieusards et fiers de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend. Deux, qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre. Deux, parce que la vie est un combat. Pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si t'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche, c'est un pour les miens. Arabes et noirs pour la plupart et pour mes baptous. Prolétaires et banlieusards, le deux. Ceux qui rêvent d'une France unifiée, car à ce jour, il y a de France qui peut nier. Et moi, je suis de la deuxième France, celle de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés. C'est ce qu'ils attendent de nous, mais j'ai d'autres projets qui nous retiennent ça. Je suis pas une victime, mais un soldat, regarde-moi. Je suis noir et fier de l'être, je manie la langue de Molière, j'en maîtrise les lettres. Français parce que la France a colonisé mes ancêtres, mais mon esprit est libre et mon Afrique n'a aucune dette. Je suis parti de loin, les pieds entravés, le système ne m'a rien donné. J'ai dû le braver depuis la ligne de départ. Ils ont piégé ma course pendant que les keufs me coursaient, eux investissaient en bourse. J'étais censé échouer, finir écroué, la peau trouée. Et si j'en parle la gorge nouée, c'est que j'ai nagé dans des eaux profondes sans bouée. J'ai le ghetto tatoué dans la peau, je rebelle comme écoué. Mais l'espoir ne m'a jamais quitté. En attendant des jours meilleurs, j'ai résisté et je continue encore. Je suis le capitaine dans le bateau de mes efforts. Je n'attends rien du système, je suis un indépendant. J'aspire à être un gagnant, tout n'est perdant. Parce qu'on vient de la banlieue, c'est vrai qu'on a grandi, non. Les yeux dans les bleus, mais des bleus dans les yeux. Pourquoi nous dans les ghettos, eux à l'ENA, nous derrière les barreaux. Eux au Sénat, ils défendent leurs intérêts et le de nos problèmes. Mais une question reste en suspens, qu'a-t-on fait pour nous-mêmes? Qu'a-t-on fait pour protéger les nôtres des mêmes erreurs que les nôtres? Regarde ce que deviennent nos petits frères. D'abord c'est l'échec scolaire, l'exclusion donc la colère. La violence et les civières, la prison et le cimetière. On n'est pas condamné à l'échec. Pour nous c'est dur, mais ça ne doit pas devenir un prétexte. Si le savoir est une arme, soyons armés. Car sans lui nous sommes désarmés. Malgré les déceptions et les dépressions, suite à la pression que chacun d'entre nous ressent. Malgré la répression et les oppressions, les discriminations, puis les arrestations. Malgré les provocations, les incarcérations, le manque de compréhension, les peurs et les pulsions, leur désir de nous maintenir la tête sous l'eau transcende ma motivation, nourrit mon ambition. Il est temps que la deuxième France s'éveille. J'ai envie d'être plus direct, il est temps qu'on fasse de l'oseille. Ce que la France ne nous donne pas, on va lui prendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire puis en vendre. Si on est livré à nous-mêmes, le combat faut qu'on livre nous-mêmes. Il suffit pas de chanter, regarde comme ils nous malmènent. Il faut que t'apprennes, que tu comprennes et que t'entreprennes. Avant de crier, c'est pas la peine. Quoi qu'il advienne, le système nous freine. À toi de voir, t'es un lâche ou un soldat. Entreprends et bats-toi. Banlieusard et fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec.
En sol majeur avec Facebook, Twitter et en podcast, c'est bien le podcast, sur notre application Pure Radio et bien sûr derrière votre poste, chaque samedi, chaque dimanche, à 14h10, temps universel, 15h à Paris. Sophia Bédard, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve la semaine prochaine avec le réalisateur Mehdi Benatia. À la semaine prochaine.